Vous écoutez RTL.
Les nocturnes de RTL, de minuit à 2h du matin.
Depuis 1973, la musique a toujours été ma priorité.
1973, 2017, 44 ans de légende. Une voix.
George Lang.
La musique.
Le mercredi soir, les auditeurs pas comme les autres programment l'émission.
Ce soir, à partir de minuit, les nocturnes du mercredi avec Philippe Geluck.
Sur RTL.
Bonsoir et bienvenue. Vous le savez, le mercredi, c'est le jour des invités dans les nocturnes sur RTL. Après avoir entendu Art Garfunkel, ce soir, c'est Philippe Geluck que je reçois. Salut Philippe.
Bonsoir Georges.
Alors, en guise de préambule, je te propose d'écouter ce que je vais dire. Je me souviens très très bien de la première fois où je t'ai rencontré. C'était au début des années 80. J'étais à Bruxelles et j'assistais à une cérémonie de remise de prix pour des émissions de télévision. À l'époque, je produisais pour RTL Télévision une émission appelée Twin Rock, qui était regardée par tous les fans de musique anglo-saxonne en Belgique, au Luxembourg et dans le Grand Est de la France. Et à mon grand étonnement, je figurais parmi les favoris. Mais le prix, une antenne de cristal, m'a échappé ce soir-là et on l'a remis à un collègue à moi de la rédaction de RTL TVI. Lors du cocktail qui suivit cette cérémonie, quelqu'un est venu murmurer à mon oreille « C'est toi qui aurais dû l'avoir, c'est Twin Rock qui aurais dû gagner, c'est Twin Rock !» Je me suis retourné et je t'ai vu. C'était l'époque où tu démarrais le chat et je me suis dit que finalement ce commentaire bienveillant dans mon oreille m'avait fait du bien parce que j'étais un peu déçu de ne pas avoir gagné cette antenne de cristal, mais quelques 30 ans après, je voulais te demander pourquoi tu es venu me dire ça dans mon oreille. Dis-moi tout.
Ah ben, j'ai la réputation de toujours dire ce que je pense, de communiquer mes enthousiasmes et de dire à ceux que j'admire toute l'estime que j'ai pour eux. Donc ce n'était que ça, parce que je suis en train de chercher dans ma mémoire, peut-être, ou alors je détestais vraiment le type qui l'a eu.
Non, je ne pense pas.
Ça devait être quelqu'un très bien.
On va dire son nom, c'est Jean-Charles de Kayser. Le patron d'RTL TVI.
Voilà. Franchement, tu es quelqu'un que j'écoute depuis... Je ne vais pas être salaud et dire depuis que je suis tout petit, mais parce qu'on doit avoir le même âge. Tu es quelqu'un qui a marqué la radio, qui par bonheur y est toujours. Donc, pour moi, j'ai l'impression. Alors, il y a deux types comme ça. Il y a Drucker en télévision qu'on a acheté avec le poste. Et toi, c'est pareil. Tu as été dans mon transistor dès le début et je continue à être un de tes auditeurs fidèles.
Eh bien, écoute, je te remercie. Maintenant, je sais. Donc, tu peux rester jusqu'à 2h du matin. T'es noctambule un peu quand même dans ta vie?
Non, je l'ai été à l'époque où j'étais comédien. J'ai démarré ma carrière au théâtre et pendant 10 ans, j'étais sur les planches. Et donc forcément, là, on travaille le soir, on sort, on vit un petit peu la nuit. Je récupérais le matin et puis j'ai commencé à avoir des enfants, ce qui est incompatible avec cette vie nocturne. Donc j'ai abandonné le théâtre. Je suis passé des planches de la scène à celle de la bande dessinée. Je suis devenu dessinateur à temps plein et maintenant je suis quelqu'un... Alors je me couche... pas très tôt, mais je me lève tôt. Et donc, je ne vis pas la nuit.
Alors, je pense que chaque fois que tu es invité dans une émission de radio, tu as droit à des choses qui ont toujours un rapport avec le chat, que ce soit Cat Stevens ou Powo. Eh bien là, je te propose d'écouter Al Stewart avec Year of the Cat. On ne va pas l'écouter en entier, ça dure 5 minutes, mais c'est histoire de respirer, de faire connaissance un peu mieux hors antenne, et puis... de préparer la suite, parce que tu vas rester avec moi pendant 2 heures et j'ai quand même quelques questions à te poser.
Donc aujourd'hui, je me couche tard.
Ok, merci en tout cas.
Crowd like Peter Lorre contemplating a crime.
tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your eyes. Direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat.
Alors, Year of the Cat, l'année du chat, tu es Monsieur Chat, bien évidemment, tout le monde le sait. Et ça me fait plaisir de te recevoir dans les Nocturnes parce que moi, tu sais, je suis un fan des chats, de tes bandes dessinées, mais aussi de l'animal. Alors, je sais que tu en avais un quand tu étais jeune, qui s'appelait Passepartout. Il était tellement gros qu'il ne passait nulle part. Ouais. Mais est-ce que tu as encore un chat en 2017 ?
Alors, non, ça c'est ma vie privée, si tu veux bien. Non, j'ai plus. J'ai plus parce que nous habitions à la campagne pendant 30 ans, où là, on avait des animaux, chien et chat. Et puis, quand on a décidé d'aller vivre à Bruxelles, on n'a pas remplacé. C'est-à-dire que nos animaux ont vécu heureux jusqu'à très tard, tous les deux. Et on ne les a pas remplacés parce que je trouve que l'animal est fait pour vivre dans la nature. Et je ne suis pas persuadé qu'il soit totalement heureux dans les villes, où il y a d'ailleurs beaucoup de... Notamment des chats errants, des chats qui redeviennent sauvages, qui sont abandonnés. Et... à l'occasion, c'est pas mal de souligner ce fait-là, de dire que c'est pas des animaux heureux. C'est des animaux qui attrapent des maladies, qui sont pas... Le chat est un animal domestique qui est fait pour vivre avec les humains, mais pas pour vivre comme ça. Voilà, il faut choisir. Et comme on voyage beaucoup, c'est une époque où j'allais beaucoup à Paris, etc. C'est compliqué. C'est compliqué, donc...
À qui tu le dis ?
Bah
parce
oui.
Que moi,
à toi.
J'en ai pas un, j'en ai pas deux, j'en ai quatre.
Ah oui, voilà. Mais il y a quelqu'un qui s'en occupe quand tu
vas.
Ah voilà.
Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, je remarque que pour toi, le chat, c'est quand même quelque chose d'extrêmement ludique et puis intéressant sur tous les plans. 12 millions d'albums vendus. Tu t'imaginais le jour où tu as commencé à dessiner un chat que tu allais en arriver là? 12 millions d'albums vendus dans le monde, en 6 langues, enfin en même...
Ouais, non, plus
que...
Ouais, ouais.
Parce que là, mes infos sont vieilles.
Ouais.
En anglais, en hollandais, en espagnol, en portugais, en grec, en iranien.
Oui, en farsi, maintenant en arabe, en brésilien, en finlandais aussi. Donc voilà, ça change, le chat est en... Alors, je dis pas qu'il est en train de conquérir la planète, parce que sa plus grande renommée est en francophonie, évidemment. Mais ce qui est amusant... et parfois impressionnant, c'est de voir des touristes, des visiteurs étrangers, des Chinois, des Chiliens qui viennent me dire dans un français approximatif qu'ils connaissent mon travail, qu'ils l'apprécient et que le chat est très connu chez eux. Alors je ne sais pas comment, mais il est arrivé jusqu'à eux.
Alors pourquoi le chat a grossi ? Parce que le premier chat que tu as dessiné sur un faire-part pour remercier ceux qui avaient mis la main au portefeuille pour ton mariage.
Oui, c'est ça.
Il était maigre, il avait faim. C'était le temps des vaches maigres ou pas ? Pourquoi il a grossi subitement ? Parce qu'il fallait lui donner une bonhomie, quelque chose qu'il n'avait pas au départ.
Il est né quand j'avais moi-même 22 ans, ou non, 25 ans. Et donc j'étais... Non, je n'ai pas beaucoup changé. Je n'ai pas grossi moi-même. Mais au fil du temps, il s'est arrondi. Mais tous les personnages de bande dessinée évoluent. Si tu regardes le Tintin du début et à l'occasion de la ressortie des soviets, on voit comme il était différent à sa première apparition et puis à la maturité. C'est pareil pour Mickey, c'est pareil pour Lucky Luke, c'est pareil pour... Il n'y a peut-être que Astérix et Obélix qui ont été eux-mêmes dès le départ. Parce que Uderzo est un dessinateur de génie absolu. Mais tous les autres, Gaston n'est pas le même. Quand il apparaît dans Spirou et puis 20 ans plus tard. Donc je crois que nous apprenons notre métier en le pratiquant, que nous peaufinons notre art et que le personnage se met à se ressembler davantage avec le temps. sa personnalité et son physique s'accordent. Et le chat, ben oui, devait grossir parce que il est plus rigolo comme ça. En gros, ça fait plus rire qu'un maigre, il n'y a rien à faire.
Donc c'est comme les papes, hein. Il y a un gros, un maigre, mais en général, le gros est plus sympathique que le maigre. Tu as remarqué ça?
Exactement, hein. Et je crois que le côté bonhomme qu'il a acquis, ce côté tout en rondeur, lui permet de...
Et en couleur,
parce qu'il était en noir et blanc au départ, lui permet de balancer davantage de vacherie. Et il est devenu plus cynique, plus acerbe, sans doute plus méchant de temps en temps, alors que moi, il n'y a pas plus gentil que moi, mais le chat peut être extrêmement vachard. Et ce côté rond permet de balancer des horreurs sans que ça ait l'air de rien.
Alors, on va peut-être un petit peu fouiller dans ton passé, mais pas trop, parce que ça doit être un peu, comme on dit en anglais, boring, emmerdant, de toujours raconter la même chose. Mais c'est ton histoire, on ne la refait pas. Hein.
Non, mais ça ne me gêne pas de raconter des mensonges et d'inventer des choses sur mon passé.
Mais ton papa était dessinateur,
ouais.
Et c'est lui qui t'a donné l'envie de dessiner, ou au contraire... Tu n'as pas voulu regarder ce qu'il faisait et tu es dans ton coin, dans ta chambre, tu allais croquer des choses que tu ne montrais pas.
Non, non, clairement, il m'a marqué au fer rouge. Et quand je dis rouge, c'est, oui. c'est pas sans penser à ses opinions politiques puisqu'il était militant communiste. Mais quand je suis né, il avait changé de métier, il était devenu distributeur de films, mais il a effectivement été dessinateur de presse pendant les 7 ans qui ont précédé ma naissance, donc juste après la guerre jusqu'à 1953. Il a publié des milliers de dessins. Il avait un trait extrêmement puissant. C'était pas vraiment du dessin d'humour, ou en tout cas, quand il se risquait à l'humour, c'était pas toujours réussi, alors que c'était quelqu'un de très drôle lui-même. Mais c'était plutôt de la caricature politique et du dessin engagé. Les patrons sont des salauds, les ouvriers sont des braves types, et voilà, allons-y. Il m'a ouvert les yeux sur toutes les merveilles artistiques qui continuent d'éclairer ma vie, sur la peinture. Il m'a appris qui était Rembrandt, qui était le Greco, qui était Goya. Il m'a emmené dans les musées. Il m'a ouvert les yeux sur les merveilles de dessin d'humour des dessinateurs américains, de Chase Adams, de Steinberg, et puis de Bosque, de Topor, de Chaval, de Ciné, ces génies du dessin d'humour français. C'est vraiment lui qui m'a donné le goût de ces choses-là.
Alors, papa dessinait et maman chantait. Elle avait une très jolie voix de soprano. Elle chantait du classique, mais à titre personnel, en amateur.
Elle a fait des études au conservatoire. Elle était tellement nouée par le trac qu'elle n'a jamais osé chanter devant quelqu'un d'autre que ses enfants. Donc, c'est nous qui avons tout pris. Et parfois, c'était masqué par le bruit de l'aspirateur qu'elle passait en chantant la flûte enchantée. Elle avait une très jolie voix. Et nous rêvions parfois de pop music et en même temps on connaissait par cœur Mozart, Schubert et la musique baroque.
Donc à la maison on écoutait aussi autre chose que du lyrique.
On écoutait de la musique classique à peu près que ça. Et quand on écoutait des variétés, c'était les chœurs de l'armée rouge. Ah, ça, c'était par conviction politique.
On a un
politique.
Point commun, moi aussi.
Ouais. Et quand c'était un chanteur français, c'était Jean Ferrat qui chantait Potemkin. Donc, on ne sortait pas du militantisme, jamais.
Alors, comment as-tu connu les Beatles que tu as programmé ce soir?
Ben, parce que nous avions tout de même notre jardin secret, mon frère et moi. J'ai un frère qui a 7 ans de plus que moi, qui a forcément commencé à écouter des radios périphériques, comme on les appelait à l'époque. Et puis moi, je laissais traîner une oreille, et puis ça m'a charmé. Et puis c'est lui qui m'a initié à ça. Et puis quand il a fait son service militaire en Allemagne, il était au service culture et loisirs. Pas dans l'artillerie, ni ces conneries-là. Et il avait l'opportunité d'acheter des disques pour 3 francs 6 sous, parce que c'était détaxé dans les magasins de l'armée belge en Allemagne. Et donc, c'est lui qui m'a ramené ces merveilles dont on va écouter quelques morceaux ce soir, et notamment les Beatles, évidemment, mais aussi Frank Zappa et d'autres. Enfin, ça, on a 2 heures pour en parler. Non, ça, c'est mes goûts personnels, c'est mes copains, c'est l'école, c'est les filles. Enfin, voilà, j'ai la chance d'être d'une génération qui a connu les Beatles en live, et on ne pouvait pas passer à côté. Et mon père ne comprenait pas, n'admettait pas notre goût pour cette chanson pop anglaise et américaine. Il disait, mais il y a des groupes hongrois ou polonais qui chantent avec des guitares électriques. Ça, quand même, autrement, vous comprenez même pas ce qu'ils vous chantent en anglais. Alors, quitte à pas comprendre, écoutez-les en hongrois ou en polonais. Au moins, ça me fera plaisir.
Any lane, there is a
Penny Lane, choisie par Philippe Gueluc, mon invité dans les Nocturnes ce soir, jusqu'à 2h du matin. Dis donc, oui. À la maison, ton papa, il te demandait d'écouter les Hongrois, il parlait d'un tas de choses, mais il t'interdisait ou il ne voulait pas que tu regardes des Walt Disney, des films de Walt Disney, par exemple, des dessins animés, c'est vrai ça?
Ah oui, d'abord on n'avait pas la télévision.
Oui.
Et au cinéma, oui. Alors moi, j'ai été interdit de Walt Disney, j'ai été interdit de Coca-Cola, j'ai été interdit de Monopoly.
Wow.
Parce que tout ça, c'était pas bien. Et en revanche, je voyais les dessins animés de La Petite Taupe, je voyais des films. Alors j'ai vu 4 fois Tempête sur l'Asie de Poudovkin, mais jamais Blanche-Neige et les Sept Nains. Alors j'essayais parfois de voir chez un copain le mercredi après-midi, aller voir Zorro à la télévision, et j'ai fait ça un petit peu en résistance. Et en même temps, je suis heureux, rétrospectivement, d'avoir eu cette éducation. Un, parce que mes parents étaient des gens formidables, étaient des gens généreux, honnêtes, purs. Ils se sont trompés dans leur choix politique, parce qu'on a vu la catastrophe qu'a été le communisme dans ces pays-là, qui a tourné en dictature. Mais voilà, c'est les personnes qui m'ont marqué. Et je me dis, au moins, je n'ai pas eu une éducation comme tout le monde. Je n'ai pas été formé au goût de la majorité. Et ça m'a peut-être donné ce regard un petit peu décalé, qui me sert encore aujourd'hui.
Quand tu écoutais les radios, tu disais des radios périphériques,
oui.
Tu fais allusion aux radios françaises, la Europe 1, RTL, oui. RMC, on ne pouvait pas à l'époque.
Non.
Mais est-ce que tu écoutais aussi, puisque tu étais en Belgique, les radios pirates, les radios anglaises, ça...
Alors,
peu, Radio Véronica,
un petit peu Radio Véronica, mais ouais. J'étais, alors comme mes parents aussi, mes parents n'écoutaient que la RTB, qui était la radio de service public, et donc moi j'écoutais Formule J, avec
Claude Delacroix,
Michel Cédric.
J'étais à l'île de Wight avec lui, tu vois, je suis un peu plus âgé que toi,
ouais.
En 70, en 70, pour faire référence à tes origines.
Oui, mais je parle les deux langues, donc pas de soucis.
J'étais donc à l'île de Wight avec Claude Delacroix, Jean-Bernard Rébé, et d'autres journaliste de l'époque, Claude Delacroix, qui a marqué la Belgique. C'était le Daniel Philippaki belge, quoi.
Oui, absolument. Absolument. Il ne dira rien, évidemment, aux personnes qui sont hors des frontières de chez nous, mais chez nous, c'était une institution. Et c'est un genre, j'ai encore... Alors, tu veux une anecdote?
Oui.
Eh bien, il y a 3 semaines, je l'ai vu chez le coiffeur.
Non.
Voilà, l'anecdote est terminée.
Et il y a quoi comme cheveux à cette heure-ci?
Un peu plus que moi, mais donc pas beaucoup en tout.
Toi,
tu as été épargné par ce truc-là.
Oui, tu sais, c'est Rod Stewart, un jour, je l'interviewais, qui me disait, on a eu les mêmes problèmes, George, avec sa voix un peu cassée comme ça. On a été opérés tous les deux de la thyroïde, parce qu'on parlait. Tu vas tout le temps à Los Angeles, j'adore Los Angeles. Tes enfants ont joué avec les miens, c'est vrai d'ailleurs.
Ouais.
Et on a un truc en commun tous les deux, c'est qu'on a des cheveux.
Ah. Ouais. Bon, voilà. Tant mieux pour vous.
Tu le vis comment, cette calvitie, papa du chat?
Oh, mais de l'intérieur. C'est-à-dire que ça n'a rien changé en moi. Non, alors, voilà quelque chose qui m'a jamais posé aucun problème. De toute façon, moi, je faisais vieux déjà quand j'étais jeune. Donc, rien n'a changé pour moi.
Allez, on écoute les Rolling Stones. Qu'est-ce qu'ils nous ont choisi, là? Honky Tonk Woman. Pourquoi? Il y a une raison? Non, il n'y a pas de raison. Tu aimes les Stones, il fallait trouver un titre.
Oui, voilà. Je les aime, je les ai vus sur scène. Et j'ai passé une soirée avec Bill Wyman il y a très très longtemps, dans le sud de la France. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux? C'est juste fascinant de côtoyer ces gens-là. Ça reste magique. Chaque fois que je les entends, Beatles, Rolling Stones, je me dis, c'est Mozart et Bach réunis.
Il a 80 ans, Bill Wyman, et il joue toujours de la basse.
mercredi avec Philippe Gueluc sur RTL.
Alors, les Stones, t'as envie d'avoir 16 ans là quand t'écoutes ça, non?
Ben oui, alors il y a une question que je me pose depuis très longtemps et qui me fait me demander si je suis pas un vieux con définitivement. J'ai l'impression qu'on reste bloqué sur la musique qu'on a aimée de 14 à 25 ans.
Je peux te dire que tous mes invités, en général, choisissent des disques qui leur rappellent leur jeunesse et notamment la période 16-25.
Ouais, ben voilà. Voilà.
Donc, je sais ton âge.
Et donc je suis, je veux pas dire que je me force parce que j'aime découvrir des nouvelles choses, mais c'est vrai que avec le temps qui passe tellement vite, je préfère être certain de me faire plaisir en me remettant un bon vieux Stones plutôt qu'en écoutant 5 disques pour en trouver éventuellement un qui me plaise.
Voilà. Je comprends.
C'est une question d'urgence.
Moi qui suis programmateur de radio, j'ai ce problème.
Ouais.
Je me bats contre la nostalgie en me disant finalement non, on vit dans une époque où il y a quand même pas mal de très bonnes choses, tu sais, puisque ton fils chante, on en parlera plus tard.
Ouais.
Mais je reviens immanquablement et inlassablement vers toutes ces choses qui ont marqué les débuts de cette histoire de rock. Quoi, voilà. Je veux dire,
Alors peut-être dans très longtemps, des critiques musicaux, des spécialistes diront, tiens, c'est vraiment ça qui a été le début, ou c'est vraiment ça qui a été fondateur. Et ensuite, on n'a fait que répéter, parce que c'est arrivé souvent dans l'histoire de la musique et dans l'histoire de la peinture. Il y a les gens qui ont inventé, et puis ceux qui ont pratiqué, qui ont suivi. Et je serais curieux d'être là dans 200 ans pour savoir...
On n'a pas le recul nécessaire pour juger de la musique de maintenant.
Exactement.
Mais c'est vrai que je me demande... Qu'est-ce qu'on retiendra de ce qui se passe actuellement? Je veux dire, peut-être des gens comme Rihanna, mais qui a marqué aussi pour d'autres raisons, pour ses folies, ses addictions, etc. Lady Gaga, tu vois. Mais tous ceux qui chantent à leur côté et qui n'ont pas la chance d'avoir cette notoriété parce qu'ils ne font pas assez de conneries, de frasques, on va les oublier rapidement, je pense.
Ben, je sais, on ne sait pas. On ne peut pas dire. À l'époque de Mozart, c'est Salieri qui avait du succès et Mozart en avait moins. Et l'histoire a jugé. Salieri est oublié et Mozart est un génie, le génie des génies. Jean-Sébastien Bach a été oublié pendant des siècles jusqu'à être exhumé il y a quelques décennies. Et pourtant, c'est le maître des maîtres. On ne sait pas. Mais c'est ça qui est magique.
Est-ce que tu as été triste quand tu as appris la mort de Leonard Cohen?
Oh oui. Oui, parce que, en plus, je l'ai toujours associé dans ma tête et dans mon cœur à un de mes plus grands amis, qui était Marc Moulin,
que tu as connu sans doute, bien sûr.
Et qui était l'homme de la nuit à la RTB, à la radio, et qui m'a fait découvrir aussi toutes ces musiques magnifiques, avec King Kong, avec Cap de Nuit. Et ils avaient une ressemblance physique, il y avait une voix qui était très, très profonde. Donc j'ai toujours... Pour moi, ils étaient un petit peu associés. Et évidemment, Leonard Cohen, alors voilà quelqu'un que j'ai suivi depuis sa première chanson, depuis le fracassant Suzanne qui nous a tous bluffés à l'époque, et jusqu'à la fin, il a été parfait.
Ou ce dernier album est magnifique.
Ouais. Hein. Il y a comme ça des gens qui sont inspirés du début à la fin. Il y a des gens qui donnent tout pendant 10 ans et puis qui sont secs et qui n'arrivent plus qu'à se répéter.
Leonard Cohen, par exemple,
a été
bon du début à la fin.
Voilà. Leonard Cohen est bon du début à la fin. Brassens, dans la chanson française, a été bon du début à la fin. Et puis il y a des gens qui ont fait des débuts fulgurants et puis qui s'étiolent.
Et sentant leur mort prochaine, on ne va pas dire qu'ils ont mis en scène leur disparition, mais ils la sentaient tellement, cette fin proche, que leur dernière musique était empreinte de cette mélancolie, tu vois, de cette envie de dire « je vais vous quitter bientôt, je le sens, j'ai plus la force, j'ai plus la puissance, mais je suis encore créatif,
je suis là,
écoutez
oui.
ça
ouais, ». Oui, c'est fabuleux, ce que tu me dis me donne la chair de poule, parce que c'est tellement ça. Quelle élégance, quelle clairvoyance et quelle générosité de dire « jusqu'au bout, je veux vous offrir quelque chose ».
Come over to the window, my little darling, I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began. Thank you.
but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh. As we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne. Time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry, and cry.
Leonard Cohen, choisi par Philippe Gueluc. L'invité des Nocturnes, puisque nous sommes mercredi. Philippe, tu n'as pas écouté que des chansons comme Leonard Cohen, tu as aussi écouté des choses qui bougent. Je sais que tu as une passion pour Jack Bruce. Jack Bruce qui est le bassiste d'un trio qu'on a beaucoup connu, beaucoup écouté, nous autres qui avons passé les 60 ans, c'est Cream.
Cream, qui était un groupe mythique.
Super groupe.
Avec Ginger Baker, le meilleur batteur du monde, avec Eric Clapton, qui a, je crois, une certaine notoriété après.
Et qui chantait pas à l'époque.
Non, voilà. Et puis Jack Bruce. Et j'ai... Alors, Cream, c'était magique. Et puis, j'ai continué à suivre Jack Bruce, qui a sorti des albums en solo, et notamment Songs for Taylor... Et puis un autre dont le nom m'échappe. Magnifique, je l'ai vu. Alors, en cherchant là pour des titres ou les titres exacts pour programmer, je suis tombé sur YouTube sur une vidéo d'un enregistrement de Jack Bruce, âgé, qui a attrapé une gueule incroyable. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Non.
Faut aller voir ça sur
YouTube.
Et c'est justement Sunshine of Your Love. Avec un enregistrement que je connaissais pas, et le mec vieux truc qui nous balance ça, mais ça a pas pris une ride, contrairement à lui qui a une gueule très burinée. I'm with you, my love.
shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long.
Choisi par Philippe Gueluc, l'invité des Nocturnes. Sunshine of your love.
Wow. C'est dingue tout de même. C'est pourquoi on aime un chanteur, un groupe, un dit. Je pense très fort qu'on est sensible à un timbre de voix, comme on peut être sensible au regard d'une femme dont on tombe amoureux. Il y a une chose comme ça. Et dans mon domaine, qui est le domaine du graphisme, je me faisais la réflexion il y a quelques jours. Moi, je suis fou de certains dessinateurs. Par exemple, Steinberg, qui n'est pas connu du grand public. On le connaît pour ses Unes du New Yorker, etc. Il est plus de ce monde. Il a marqué le dessin d'humour. Il est le précurseur. Et en fait, je voyais un de ses dessins et je me dis, au fond, un trait de plume, une ligne droite tracée par lui m'émeut au plus profond de mon âme. Une façon de chanter quelques notes peut me toucher, me transpercer. Et c'est des choses tellement... ça parle à l'un, ça parle moins à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on aime?
Oui, mais il faut ajouter à cela aussi un peu de nostalgie quand même, parce que ça te ramène à des années où, de l'insouciance peut-être pour toi. Ou...
Oh non, au contraire. J'ai l'impression que l'insouciance, je l'ai maintenant.
Ah bon?
C'était des années plus graves pour moi. C'était l'adolescence, c'était une période troublée, c'était une période dans laquelle j'étais angoissé, dans laquelle j'étais pas forcément heureux toujours. Quand j'entendais ça, oui, mais c'était des années compliquées pour moi.
Et pourtant, à l'époque, on trouvait du travail.
C'est peut-être ça qui m'angoissait.
Il y avait moins d'interdictions.
Oui, non, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai l'impression de m'être accompli et d'être devenu ce que je souhaitais être, alors que à ce moment-là, j'étais encore qu'une espèce d'univers en formation.
Alors revenons à ta jeunesse.
Oui.
Tout le monde le sait, je l'ai lu partout, mais on va le répéter encore ce soir dans les Nocturnes sur RTL. Tu as commencé à dessiner avec ton frère sur les murs des toilettes chez toi. Oui. Quelle drôle d'idée quand même.
Bah, c'était une maison dans laquelle habitaient deux familles, oui. Donc il y avait des toilettes à l'entresol, et c'était en carrelage métro, comme ça c'était très joli, et puis on a commencé à punaiser, plutôt ou à scotcher des dessins sur l'actualité internationale, mais aussi sur l'actualité de la maison. C'est-à-dire à caricaturer les parents, les amis, les autres.
Tes parents utilisaient ces toilettes aussi ?
Ah mais oui, ça faisait rire tout le monde.
Ah bon ?
Oserais-je dire que c'était tapissé de rire ? C'était l'endroit ad hoc.
Et alors ?
Un jour, un laveur de vitres qui était venu nettoyer les carreaux est passé là, et puis il n'est plus ressorti des toilettes parce qu'il a tout lu de A à Z. Il est sorti de là mort de rire en disant à ma mère, c'est extraordinaire, il faut me dire si c'est vos fils qui font ça, il faut que je puisse montrer les dessins à un ami rédac-chef d'une revue humoristique. Et il lui a confié quelques dessins.
Qui s'appelait L'œuf, je crois, non ?
Oui, ça s'appelait L'œuf. Et il s'appelait...
Bob de Groot,
qui est le scénariste de séries à succès dans la bande dessinée. Et il a vu ça, et il a publié mes premiers dessins.
Waouh !
Voilà.
Alléluia !
Je suis passé des chiottes à la une de L'œuf, en un éclair. Et voilà, ça a été le début, et j'avais 16 ans. Et c'était jeune pour publier des premiers dessins d'humour. C'était de l'humour noir, très grinçant. Et ça l'a fait rire, et puis après, ça n'a plus jamais cessé.
Alors, tu t'es dit que là, il y avait peut-être une opportunité pour toi de continuer dans cette voie, de dessiner, de croquer, de tourner en dérision de la société.
Ouais. Oui, parce que mes idoles s'appelaient Ciné, s'appelaient Stenberg dont je parlais, s'appelaient Bosque, s'appelait Reiser, et je me disais, alors j'étais déjà grand en taille, mais je me disais quand je serai grand, c'est ça que je veux être, même si j'ai fait un passage par les planches et que j'ai joué au théâtre, c'était le dessin, l'illustration et puis le dessin d'humour qui m'attirait, qui m'aspirait, et le chat est venu bien plus tard dans ma vie, mais c'est devant la table à dessin que je me sens le mieux, sans doute.
Mais entre le moment où tu as fait paraître certains dessins dans L'œuf et Le chat, tu as quand même fait beaucoup d'autres choses.
Oui.
Parce qu'il fallait vivre quand même.
Oui, voilà. Et puis que tout m'attire, tout m'aspire, tout m'intéresse, tout me passionne. Donc j'ai eu la chance de jouer des pièces magnifiques au théâtre, j'ai eu la chance de monter une troupe de théâtre, de café-théâtre qui s'appelait le Théâtre Hypocrite, où on a fait des spectacles drôlissimes, et puis j'ai été remarqué par quelqu'un qui travaillait à la télévision, puis j'ai animé une émission pour les enfants qui s'appelait Lollipop, c'était en Belgique,
ouais.
Ça a duré 5 ans, puis je me suis dit...
était le concurrent d'une autre émission sur RTL Télévision que j'animais et qui s'appelait Citron Grenadine.
Ah.
On va régler nos comptes.
Oui, bon. chacun a le droit de vivre. Hein. Non, c'était.
C'est formidable cette époque-là.
Oh, époque formidable parce qu'on a fait péter les codes de la télé. Et puis au bout de 5 ans, je me suis dit, mais il ne faut pas que je me laisse enfermer là-dedans.
Pourquoi ?
Il ne faut pas que je devienne le Dorothée du 21e siècle.
Mmh.
J'ai jamais eu l'envie qu'on me colle une étiquette définitive. J'espère toujours être là où on ne m'attend pas. Quand on attend un livre du chat, j'en sors un autre. Quand on en attend un autre, je sors un album du chat. Quand on m'attend bienveillant, je suis grinçant. Et voilà. Ça fait partie du jeu. Dans la création artistique, il faut essayer de surprendre toujours. Mais comme dans la vie, je veux dire, en amour, il faut toujours surprendre. En amitié, il faut toujours se renouveler. Il ne faut pas renouveler les gens, hein. On peut garder des amis très longtemps, mais il faut toujours essayer d'apporter quelque chose de neuf. Je déteste l'encroûtement, je déteste les habitudes, je déteste
l'attente. Je me sens mal là, quand tu dis tout ça, parce que moi ça fait 44 ans que je fais les nocturnes.
Oui, mais tu es un gamin. Quand je t'écoute, tu es tellement enthousiaste, tu connais tellement ton sujet, que tu arrives à nous accrocher en nous racontant des choses que nous ignorions. Là, tu m'as dit parfois pendant les, tu m'as raconté des histoires hors micro, et c'est des choses que je connais pas. Donc, tu m'instruis, tu me nourris, tu m'apportes. On peut se renouveler dans la continuité. C'est ce que j'essaie de faire avec le chat, qui va avoir 34 ans. On pourrait dire, faut arrêter, faut le faire piquer, il faut passer à autre chose. Non, il a encore des choses à dire, et moi à travers lui. Mais chaque dessin est un saut dans le vide et chaque nouveau gag est un casting que je dois passer. Je suis jamais sûr de moi. J'ai toujours envie de... Je dois d'abord me surprendre moi-même avant de surprendre les autres. Et je ne me satisfais jamais de rien. J'ai toujours envie d'aller plus loin. D'aller, voilà.
Alors, on va écouter quelqu'un qui a accompagné nos vies, puisque jeune, on l'écoutait. Et il est toujours là. Il vient d'obtenir le prix Nobel de littérature.
Ah, tu parles de Robert.
Robert Zimmermann, ouais, oui.
Ouais, pas mal.
Oui.
Pas mal.
Tu as choisi Hard Rain's Gonna Fall.
Bah oui, parce que quitte à être dans la nostalgie, j'ai pas pris son dernier disque.
Qui fait référence à Frank Sinatra d'ailleurs.
Bien sûr, mais voilà, c'est. On ne, comme disait l'autre, je crois que c'est Michel Drucker, un philosophe du siècle dernier, qui est encore heureusement là, qui disait nul ne guérit de son enfance.
Oh, where have you been? My blue-eyed son. And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain you're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. So guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain they're gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were a-blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard. It's a hard rains are gonna fall.
It's a hard rains are gonna fall. Bob Dylan, choisi par Philippe Geluck. Je suppose que tu dois écouter en dehors des nocturnes, quand tu les écoutes, la station de radio qui s'appelle Classique 21. Et je salue là Marc Isaïe, qui est le fondateur, enfin peut-être pas le fondateur, mais en tout cas le patron actuellement de cette chaîne, qui permet d'entendre à longueur de journée des chansons comme ça, des classiques du rock.
Ouais.
Ça doit être formidable. C'est le FIP de la Belgique, mais oui, avec une volonté de passer de la
musique plutôt classique rock.
Voilà, c'est, ou alors on pourrait dire le nostalgie du rock. Mais enfin, c'est terrible dès qu'on...
C'est plus anglo-saxon.
On change de génération dès qu'on dit ça.
Ouais,
mais de toute façon, ça va tellement vite.
Ouais.
Voilà, c'est le tour de nos enfants, de nos... Moi, je suis grand-père. Je démarre dans la vie, j'ai à peine le temps de me retourner, pouf, je suis grand-père. Ça passe à une vitesse supersonique, donc faut bouffer la vie, mais il faut bouffer la nostalgie parce que la nostalgie fait partie de la vie. Voilà, on est coincé entre projet et nostalgie. Et là, il y a un petit instant qui s'appelle le présent et qui représente le bonheur.
Ah bon ? Parce que le bonheur, tu l'as trouvé il y a longtemps. Dani, c'est la femme de ta vie quand même. Ça fait presque 40 ans que tu vis avec elle.
Ouais, ça fait 40 ans et 2 mois. On s'est rencontrés en 76 sur un tournage de court-métrage où j'étais comédien, elle était script.
Ouais.
Et j'ai eu la chance de rencontrer la femme de ma vie jeune. J'avais 22 ans, elle en avait 23. Et j'ai toujours aimé les femmes plus âgées. Et on avait eu, et c'est une époque où on avait déjà eu une vie assez remplie. Émotionnellement, voilà, on a connu la période, on a vécu dans une période insensée. Il y avait la pilule, il n'y avait pas encore le sida, il y avait le plein emploi, il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas le terrorisme. Je me dis que dans l'histoire, quand on refera le déroulé de toute l'histoire, on a eu un bol incroyable. Alors, il faut aussi qu'on se montre digne de cette chance qu'on a eue, et puis qu'on soit respectueux des autres, respectueux de l'environnement, respectueux de tout ça en général. Et puis quelle chance, voilà, de rencontrer... on choisit pas, hein. Ça m'est tombé dessus. Paf, je pensais que j'étais amoureux des tas de fois avant elle, mais pas comme ça, pas aussi fort.
Le coup de foudre.
Et le jour où je l'ai vue, j'étais comme le loup de Tex Avery, j'ai la langue qui est descendue de 40 cm, les yeux qui me sont sortis des orbites, j'ai su que c'était elle, et c'était elle.
Et 40 ans et 2 mois, c'est ça ?
Ouais, ouais.
Plus tard, ça baigne.
Ah oui, je suis... Je l'ai vue ce midi, on a déjeuné ensemble, parce que je travaillais l'après-midi, et puis je sais que je vais la retrouver tout à l'heure, et puis je suis comme un jeune amoureux, quand je sais que je vais la rejoindre, mais mon cœur bat plus fort. Si elle m'appelle sur mon portable, je suis...
Mais tu sais que c'est rare, ça.
Ben oui, je sais que c'est rare. Je sais que c'est une chance, parce que... c'est une chance, d'abord, parce qu'on ne choisit pas. Je veux dire, on ne choisit pas d'être amoureux et on ne choisit pas de le rester. Et moi, j'ai la chance d'être fou amoureux de cette femme, de le rester, mais en même temps, il y a une vigilance, il y a une attention à l'autre qui doit être là. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas galvauder, qu'il ne faut pas gâcher. Et dans ce sens, on peut faire durer un sentiment aussi. Mais s'il n'est pas là, on a beau danser sur la tête, il n'y a rien à faire.
Philippe Gueluc a choisi Lou Reed, Walk on the Wild Side. Nous sommes ensemble jusqu'à 2h du matin. Merci d'avoir choisi RTL. Merci d'écouter les Nocturnes.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. On the island, in the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. took up a ferry, came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right.
Tu sais que le temps passe vite avec toi, Philippe. Tu racontes tellement bien ta vie. Tu racontes tellement bien les émotions que tu vis avec la musique que finalement, on ne voit pas le temps passer. Alors, Lou Reed, pardon de parler sur cette chanson sublime, mais je voudrais qu'on termine avec Frank Zappa cette première heure. Je rappelle que tu es avec moi jusqu'à 2h du matin. Pourquoi Frank Zappa?
Et pourquoi Lou Reed et pourquoi Frank Zappa? Mais je les ai vus tous les deux sur scène, j'ai eu cette chance.
Au 140?
Alors, Frank Zappa au 140, Lou Reed à Forêt Nationale.
140, puis, c'est une salle mythique.
À Bruxelles, c'est le théâtre 140 et c'est toujours dirigé par Joe Dekmin, qui devient un très vieux monsieur, qui a eu un nez absolument extraordinaire. Il était partout, il écoutait tout, il était passionné. Et il a programmé tous les groupes qui ont explosé à travers la planète, quelques mois avant qu'il n'explose. Il y a eu les Nice, il y a eu les Pink Floyd qui sont venus jouer à Bruxelles, mais les mecs étaient inconnus. Eh bien, Joe Dekmin les a eus. Alors, on ne peut pas dire que c'est lui qui les a lancés, parce que c'était des locomotives folles.
Il avait le nez.
Et donc, j'ai eu la chance, comme ça, d'en voir plein. Et Frank Zappa, je l'ai découvert grâce à mon frère, d'abord avec ses disques qui m'ont ramené du service militaire. Et c'est, alors là, musicalement, putain, c'est extrêmement fort. C'était...
Tu peux en parler avec Jean-Jacques Perroni et avec Yann Wax. Ils sont venus tous les deux ici. Ils ont été dithyrambiques au sujet des Zappa.
Ah ben voilà, c'est un des plus grands.
La suite de ces nocturnes en compagnie de Philippe Gueluc dans quelques instants. Pour le moment, il est 1h du matin.
Les infos, RTL.
24 heures d'infos, Julien Cellier.